Est-ce que certains d'entre vous ont déjà quelques questions par rapport au texte qu'ils viennent d'entendre ? Alors moi, je vais vous poser une question si vous n'avez pas à m'en poser. Imaginez que vous avez à donner un titre à l'évangile que je viens de lire. Quel titre vous donneriez pour faire comprendre l'évangile ?
Rois mages.
Ah, les rois mages. Alors, c'est une bonne idée que ce titre. Est-ce que d'autres ont une autre idée ? Alors, on retient les rois mages. Est-ce que vous voyez un autre possible pour ce passage de l'évangile ? Ah, là, je vois qu'il y a une autre proposition. Alors, on t'écoute, vas-y, tu nous dis bien fort.
L'épiphanie ?
L'épiphanie. Ah ! Les rois mages, l'épiphanie. Alors, je vais commencer déjà par cette deuxième proposition. Est-ce que certains, alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont très savants et qui connaissent le grec, est-ce que vous savez ce que veut dire épiphanie ? Alors, c'est pas une interjection marseillaise, épiphanie, hein, c'est pas ça, non. Hein. Épiphanie, c'est un mot grec hein, qui veut dire briller sur, hein, ou se montrer sur, briller sur. Mais qu'est-ce qui brille dans l'évangile, hein, à votre avis ? Alors, on entend plein de choses là. Alors, attends, Amélie, vas-y, prends le micro.
L'étoile.
Ah, l'étoile. Mais elle brille sur quoi ? Ou plus exactement, sur qui ? L'étoile.
Sur Jésus.
Sur Jésus, ah. L'étoile, elle brille sur Jésus. Oui, c'est elle, c'est cette étoile qui indique la route pour les mages, on est bien d'accord. C'est elle qui brille à l'Orient. Vous savez que, même chose, le mot « Orient » a donné un autre mot en français, le mot « orientation ». Vous faites parfois des courses d'orientation chez les scouts. Bien, c'est exactement ça. L'étoile, elle aide les mages à s'orienter vers celui qui est la vraie lumière. En fait, quand on parle de l'épiphanie, il ne s'agit pas forcément de la lumière de l'étoile, hein, c'est plus précisément la lumière de Jésus qui brille sur le monde. Et l'étoile, elle est un petit reflet de cette lumière. Parce que Jésus, c'est celui que son Père envoie parmi les hommes pour briller sur eux. Mais pas briller à la manière d'un roi comme Hérode, hein, avec un pouvoir très fort, un pouvoir qui ne laisse aucune liberté, un pouvoir qui ne veut pas être partagé. Non, Jésus, il brille de manière un peu particulière, il brille comme un petit enfant dans une crèche. Alors, je reprends aussi ton idée de titre. Tu parlais des rois mages. En fait, si vous avez écouté le texte, de quel roi est-il question dans l'évangile ? De quel roi est-il question ? Là, on a plein de mains qui se lèvent.
Hérode.
Le roi Hérode, je suis d'accord. Est-il question d'un autre roi ?
Des rois mages ?
Eh bien non. Si on écoute l'évangile, jamais on ne nous dit que les mages sont des rois. C'est nous hein, qui avons, au fil des années, imaginé que ces mages étaient certainement des gens puissants. Hein, puisqu'ils faisaient donc un long périple, mais surtout, on a dit qu'ils étaient rois par contraste hein, avec Jésus. En fait, ce que l'on veut signifier, c'est que ces mages, qui peut-être sont des rois, hein, eh bien, ils sont beaucoup plus sages qu'Hérode. Hérode, lui, est un mauvais roi, puisqu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué. Quand les mages disent qu'ils veulent savoir où est le roi des Juifs, celui qui vient de naître, Hérode interroge ses scribes. Et ses scribes, eh bien, ils trouvent la bonne réponse. Ils savent exactement où se trouve le roi des Juifs. Mais est-ce qu'Hérode, avant les mages, avait fait une démarche pour aller voir ce roi ? Pas du tout. Est-ce qu'il accompagne les rois ? pour aller se prosterner avec eux devant l'enfant ? Pas du tout. Il reste dans son palais à mijoter des rêves sanglants de meurtre. Si vous lisez la suite de ce passage dans la Bible, eh bien, vous verrez qu'Hérode ne se signale pas par sa sagesse comme les mages, mais il va faire tuer ceux qui menacent son pouvoir. Il va faire exécuter des innocents parce qu'il croit que parmi eux se cache celui qui pourrait peut-être un jour prendre sa place, et il en a très peur. Non, les mages ne sont pas comme Hérode, ce sont peut-être des rois, mais des rois de cœur. Pourquoi est-ce que je dis ça, à votre avis? Pourquoi est-ce que je dis que les mages, ce sont des rois du cœur? Comment se comportent-ils? Est-ce que vous avez bien entendu? Ils vont suivre l'étoile, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jésus? Que font-ils? Alors, une main se lève.
Ils vont se prosterner.
Exactement, bravo. Ils vont se prosterner devant lui. Parce qu'ils reconnaissent dans ce tout petit enfant le roi du monde, le roi de l'univers. Eux, ils sont mages, ça c'est sûr. Peut-être sont-ils rois, mais leur royauté, elle n'atteint pas celle de Jésus. En fait, ces mages ont compris que Jésus, ce petit enfant aux mains vides, était le roi de l'univers. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec les mages, c'est qu'ils n'ont pas peur, eh bien, d'aller contre toutes les évidences, tous les clichés. Normalement, un roi, où est-ce que ça naît? Oui. Où est-ce que ça naît, un roi?
Dans un royaume?
Dans un royaume. Et plus exactement, dans quel type de maison?
Un palais.
Dans un palais. Or, ici, le roi du monde, il habite dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire pour animaux. Drôle de palais. Et puis, le roi du monde, le roi de l'univers, on le voudrait grand, on le voudrait fort, on le voudrait avec des armées. Or là, c'est qui son armée? Des bergers. C'est qui ses gardes du corps? Un âne et un bœuf. C'est un peu drôle pour un roi. Eh bien, les mages sont prêts à quitter toute leur certitude. Ils suivent l'étoile, ils font confiance à cette étoile qui leur semble envoyée par Dieu. Et quand ils l'ont suivi, quand ils ont trouvé l'endroit où se trouve le roi des Juifs, eh bien, ils sont prêts à croire que ce petit enfant qui a les mains vides, c'est le roi du monde. Et ils se prosternent devant lui. Se prosterner, c'est un très beau geste. On pourrait dire aussi, ils viennent l'adorer. Ils viennent reconnaître en lui leur roi. Alors finalement, je repose ma question. On a parlé du roi Hérode, mais est-il question d'un autre roi? Alors, dites-moi tout.
Jésus.
Eh oui. Jésus, c'est le vrai roi. C'est le roi de l'univers. C'est le roi de l'univers, pourquoi? Parce que c'est le seul à pouvoir nous donner en abondance ce qu'aucun autre roi ne peut nous donner. Jésus, c'est le seul à pouvoir nous donner l'amour de Dieu en abondance. Cet amour, il le donne dans ses mains vides. Il n'a pas de cadeau à nous donner. Hein, vous voyez que les rois, ils viennent avec de l'or, ils viennent avec de l'encens. Vous avez vu tout à l'heure là, l'encens, hein, qui nous a servi à faire monter les prières de l'assemblée que nous sommes vers Dieu. Et puis la myrrhe, hein, c'était un produit qu'on utilisait pour embaumer les gens à leur mort. Hein, c'est ce qu'on va utiliser pour Jésus, hein, après, eh bien, qu'il aura été crucifié. Eh bien non, Jésus, il n'a pas de cadeau à offrir si ce n'est toute sa personne. C'est lui-même qui l'offre. C'est lui-même qui l'offre. Il va même s'offrir jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur une croix par amour pour nous. L'amour de Dieu va jusque-là. Alors vous me direz, ça c'est bien, mais nous alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Jésus ? J'ai envie de dire deux choses. Vous pouvez être comme l'étoile et vous pouvez être comme les mages. Vous pouvez être comme l'étoile, c'est-à-dire briller de l'amour que vous recevez de Dieu, de l'amour que vous recevez de Dieu à travers l'amour de vos parents, à travers l'amour de vos amis, à travers l'amour de vos enseignants, ben oui, vos instituteurs, vos institutrices, vos professeurs, ils vous estiment, j'espère en tout cas. À travers l'amour aussi reçu par les chefs tennes, tous ceux qui vous font grandir au scout. Tout cet amour-là que vous recevez, eh bien, il a une source, c'est Dieu. Et cette lumière de l'amour de Dieu, vous avez à la rayonner. Rappelez-vous quand on est allé à la Flèche pour chercher la lumière de Bethléem. J'espère que cette lumière, vous l'avez transmise autour de vous. Eh bien, la lumière de l'amour de Dieu, vous aussi, transmettez-la en aimant à votre tour. Et c'est peut-être comme cela que vous allez guider vers Jésus des gens qui ne le connaissent pas. Je suis sûr que parmi vos copains, vos copines, il y a, eh bien, il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas le Christ. Eh bien, vous pouvez peut-être leur dire que le Christ, c'est celui qui est venu apporter l'amour de Dieu sur la terre. Et puis, je vous invite à être comme les mages. À être comme les mages, à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Même quand ça ne va pas, même quand vous êtes triste, même quand vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde, que vous ne comprenez pas pourquoi il y a tant de mal, de violence dans le monde. Faites confiance à Dieu. Suivez vous aussi les étoiles que sont pour vous vos parents, vos amis, vos professeurs, vos chefs et cheftaines. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à ce petit enfant qui vous ouvre ses bras pour vous donner tout l'amour qu'il a. Et à votre tour, prosternez-vous devant lui. Offrez-lui toute votre personne. Offrez-lui tout ce que vous avez, en premier lieu, vous-même. Si vous lui faites confiance, si vous lui donnez votre foi et votre amour, eh bien, il sera pour toujours avec vous. Parce qu'il nous l'a promis. Comme il a promis, comme il a demandé à ses disciples d'aller par toutes les nations pour faire des disciples et pour baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, juste après avoir lancé cet appel, il a dit à ses apôtres « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Eh bien, ce message-là, il ne faut pas qu'il meure. Le Seigneur compte sur vous pour être comme des étoiles et comme des mages, pour dire dans ce monde qui en a bien besoin, ce message de la part de Jésus, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », ça, c'est le message de l'amour de Dieu pour tous les hommes, sans exception. Amen.